7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qui est vraiment Hillary Clinton? Une femme dans un monde d'hommes, grande professionnelle de la politique avec une longévité hors norme, mais avec cette image tout de même de papier glacé qui lui colle à la peau. Non, elle n'a pas l'empathie et la claque dans le dos facile de Bill. Alors pourrait-elle devenir la première femme présidente des États-Unis? Est-ce d'ailleurs un sujet pour la société américaine après deux mandats d'un président noir? Quels sont les véritables conviction de Hillary Clinton, forgée au cours de sa vie, sur les femmes, sur la justice sociale, sur les minorités et bien sûr sur la finance. Et puis, derrière Hillary, il y a une famille transformée en véritable entreprise politique. Un éditorialiste américain écrivait ironiquement qu'aux États-Unis il y a trois partis, les républicains, les démocrates et les Clinton. On va en discuter avec nos invités. Bonjour François Clémenceau.
Bonjour.
Voilà, je cite vous qui avez cité cet éditorialiste américain. Vous êtes ancien correspondant d'Europe 1 à Washington et vous avez vécu sept ans aux États-Unis. Et vous publiez Hillary Clinton de A à Z. Et aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef du journal du dimanche. Également dans le studio de 7 milliards de voisins, François Durpère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence, spécialiste de l'histoire des États-Unis à l'université de Cergy-Pontoise et vous avez publié notamment la dernière version de l'histoire des États-Unis dans la collection Que sais-je. Et quant à vous les voisins, bien sûr, pour poser vos questions à nos invités, vous pouvez nous téléphoner dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et tous vos messages également postés sur le fil Facebook. François Clémenceau, Hillary Clinton dans la course à la présidentielle, alors c'est pour quand finalement là?
Pour l'instant, Hillary Clinton continue d'obéir à un cycle de conférences payées et il serait très malvenu qu'en même temps, elle puisse commencer à se lancer dans la course. Donc ce cycle de conférences va jusqu'à fin mars, début avril et comme par hasard, ça tombe au moment où généralement les candidats font ce qu'on appelle un comité exploratoire de candidature, ce qui leur permet de lever des fonds officiellement et de pouvoir commencer à regarder si ça tient la route. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'elle fonde ce comité exploratoire début avril et qu'un trimestre plus tard, au moment où, en fonction du montant de la levée de fonds, eh bien, elle déclare sa candidature à la fin du printemps, au mois de juin.
Ce qui veut dire que pour vous tous les deux, François Clémenceau, François Durpère, l'affaire est pliée. Elle sera candidate?
Non, moi je mets un petit billet sur le fait qu'elle ne sera pas candidate, en prenant des risques, parce que c'est vrai que tout le monde pense qu'elle... Je pense qu'à l'heure qu'il est, je pense qu'elle ne sait pas si elle sera candidate. Je pense qu'elle fait tout pour y aller, mais qu'il y a toujours une petite possibilité. Je pense qu'elle ne voudrait pas terminer sa carrière.
Qui serait fondée sur quoi?
Qui serait fondée sur la crainte de la défaite. C'est-à-dire sur le fait que la primaire, ça semble plié. Encore que, il y a à peu près en 2007, on pouvait se dire c'était aussi plié. Hillary Clinton va gagner à la primaire et puis Obama est sorti du diable Vauvert et puis a remporté avec des méthodes tout à fait neuves. Vous savez, une campagne, c'est très difficile à anticiper. On ne sait pas sur quoi on va gagner la prochaine campagne. Alors évidemment, on parle des réseaux sociaux, mais quels réseaux sociaux et de quelle manière? Donc la campagne, elle est dure. Alors à 69 ans,
il faut aller mouiller la chemise aussi.
Elle peut être tentée de se dire je vais peut-être avoir une vie enfin normale, mais est-ce qu'elle a eu une vie un jour normale?
Elle n'en veut pas, cette vie normale.
Elle peut pouponner en tant que grand-mère.
Mais
ça l'ennuie profondément.
Mais ça l'ennuie, mais en même temps, imaginez, elle fait perdre le Parti démocrate, parce qu'il y a quand même une chose, c'est que Obama, il a bénéficié de son adversaire républicain qui s'appelle Mitt Romney, qui était quand même pas le plus grand des candidats et des adversaires possibles. Là, si elle est face à un républicain, il y a aussi un obstacle institutionnel. Vous savez que dans l'histoire récente des États-Unis, il y a très peu de cas d'un démocrate qui succède à un démocrate, ou un républicain qui succède à un républicain. On est souvent réélu, hein, même quand on n'est pas travailler. Obama était quand même pas à des sommets de popularité, mais il a été réélu. C'est institutionnel. On fait 8 ans. Donc c'est plutôt rare de pas faire 8 ans, mais c'est rare aussi de succéder à un membre de son parti. Donc voilà, toujours cette petite possibilité. Puis il y aura évidemment, on en reparlera, la vie de Chelsea qui va compter. Vous savez que lorsqu'elle devait concourir contre George W. Bush, il y avait cette possibilité-là, eh bien, elle avait demandé l'avis à sa fille Chelsea, qui lui avait dit non, n'y va pas, finis ton mandat de sénatrice. Alors là, elle lui dira pas la même chose, mais Chelsea a pris beaucoup plus de poids politique dans la famille qu'à l'époque où elle a refusé de concourir contre George W. Bush.
En tout cas, dans son discours de défaite au moment de la primaire de 2008 contre Obama, elle avait dit « l'avenir est à une femme présidente des États-Unis ». Elle n'avait pas dit « je ». D'où la question de Mokhtar au Sénégal, qui nous poste ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que les États-Unis sont mentalement prêts pour élire une femme présidente ? Est-ce que le fait que Hillary Clinton ait déjà été First Lady, nous écrit Mokhtar, n'est pas un handicap pour qu'elle se fasse élire présidente ?
En l'occurrence, si vous prenez toutes les enquêtes d'opinion qui sont publiées depuis 2008 sur la maturité du peuple américain vis-à-vis d'une femme à la Maison-Blanche, la réponse est de façon écrasante. C'est oui à 80 ou 85%. Beaucoup moins chez les républicains, c'est pas très étonnant, on est beaucoup plus conservateur de ce point de vue-là, mais oui, de la même façon
presque
d'ailleurs...
Presque un non-sujet finalement.
C'est pas que ce soit un non-sujet, le problème c'est quelle femme. En fait je crois que sur le genre,
donc on est bien d'accord.
Les Américains sont prêts. Après, vous regardez, il y a des femmes politiques aujourd'hui aux États-Unis qui sont de calibre absolument différent.
Une question que je trouve intéressante de Pelé à Dakar, qui dit « Hillary Clinton serait-elle accueillie par les Américains comme Barack Obama l'a été ?»
Non, alors, elle va pas faire une campagne à la Barack Obama, d'abord parce qu'elle est de nouveau favorite pour l'élection primaire. Barack Obama lui est arrivé comme l'outsider. Hillary Clinton ne sera jamais outsider. À une position difficile, elle doit gagner en tant que favorite. Elle sera à la fois favorite de l'élection primaire et en dépit des obstacles institutionnels dont on vous a parlé, elle sera aussi favorite de l'élection présidentielle. Donc c'est une campagne complètement différente. Mais je me permets de répondre à également à la question d'avant. Moi, je pense que d'abord, faut pas se poser la question de savoir si les Américains sont prêts à élire une femme, faut se poser la question de savoir si les Américaines sont prêtes à élire une femme, puisqu'il y a une majorité de femmes qui votent. Et même les États-Unis sont un pays où le gender gap, c'est-à-dire le nombre de femmes qui votent, est important par rapport aux hommes, pour des raisons très, très, très compliquées. Mais enfin, il y a plus de mobilisation féminine. Et elle n'a pas perdu en 2008 parce qu'elle était une femme, elle a perdu peut-être parce qu'elle n'a pas suffisamment utilisé l'argument d'être une femme.
Exactement.
Alors que Barack Obama, subtilement, disait, écoutez, moi, j'y vais pas en tant que noir, mais en fait, faisait une shadow campaign où il expliquait que c'était l'identité qui jouait, allez, prouver, yes, we can, ça voulait dire, prouver que vous êtes pas raciste, prouver que vous pouvez élire un noir, mais il disait, mais je serai le président de tous les Américains. Hillary Clinton, elle a déserté le terrain de l'identité en 2008, elle a parlé programme, elle a fait une campagne très sérieuse, pendant un peu, finalement, démodée, elle a pas parlé tant d'elle, elle pensait que tout le monde la connaissait, c'était vrai, et elle a perdu sur ce terrain. Là, il faut qu'elle réinvestisse la question du genre,
et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Et que les femmes se disent, elle fera quelque chose pour les femmes,
c'est ça. Exactement. Que ça soit pas une présidente femme, que ça soit une présidente féministe. Alors, féministe à l'américaine, mais féministe.
Alors, justement, féministe à l'américaine, qui a fait une carrière politique dans un monde d'hommes, depuis la fin des années 70.
Si vous prenez aujourd'hui toutes les femmes américaines qui ont plus de 50 ans, et ça fait un paquet quand même, parce que les baby-boomers, ils sont quand même arrivés à leur apogée là. Le score pour Hillary Clinton sera phénoménal. La difficulté, c'est chez les jeunes américaines de moins de 50 ans. C'est là où ça devient compliqué. Et si vous regardez les scores qu'elle a fait auprès des jeunes américaines en 2008, c'était catastrophique. Pourquoi ? Exactement. Parce que les jeunes américaines voyaient Obama comme étant la nouvelle génération, la fraîcheur, l'innovation,
et
etc.
Et elle, c'est « she's so yesterday », c'est ça l'expression ?
Voilà, c'est un peu le slogan qui est sorti chez ses adversaires déjà au sein du Parti démocrate à l'époque. « She's so yesterday », elle est désuète,
mais
elle est d'avant.
Il y a Chelsea.
Alors, le problème de Chelsea, c'est que Chelsea a une vénération pour sa mère. Chelsea a compris très tôt qu'il fallait qu'elle s'engage auprès de sa mère pour pouvoir justement essayer de mobiliser un jeune électorat. C'est ce qu'elle a fait en 2008, mais pas de façon très convaincante. Mmh. Et là, si jamais effectivement elle y va, je peux vous assurer que Chelsea sera à fond derrière sa mère pour essayer de mobiliser les jeunes Américains.
Elle a un rôle maintenant très important dans la fondation, donc elle a beaucoup plus de rôle politique
Clinton.
Dans la fondation Clinton.
Et une des fondations les plus puissantes au monde aujourd'hui.
Exact. Et il y a une anecdote qui résume un peu ces relations-là. En 2008, dans la campagne de 2008, émission de télé où on pose la question à Hillary Clinton. On lui dit, qu'est-ce que vous aimez comme type de morceau ? On posait la même question à Barack Obama qui disait, ben moi, les Fugees, enfin Obama, et racontait exactement ce qu'il y avait dans son MP3. Que répond Hillary Clinton ? Elle répond, écoutez, je vais demander à Chelsea. Parce qu'elle comprenait qu'elle était sur un patrimoine musical sans doute d'avant. Et donc voilà. Alors, évidemment, Hillary Clinton, il faut qu'elle fasse de Chelsea ce que Barack Obama a fait de Michelle Obama. Michelle Obama a été chercher les voix des Noirs américains américain dans les États du Sud pendant la campagne primaire, alors que c'était pas gagné du tout. Les Noirs voulaient voter Hillary Clinton, hein, pour plein de raisons. Et Hillary Clinton, elle doit faire la même chose avec Chelsea. Chelsea doit aller chercher non seulement les femmes, mais elle doit aller chercher surtout les jeunes.
Et Bill, alors dans tout ça, alors on va pas faire de la politique de l'oreiller, mais tout de même, on a des invités de contenu ici dans cette émission. Bill en First Gentleman, est-ce qu'il est excité ou blasé par la bataille à venir? Comment voyez les choses? Est-ce qu'il y a vraiment un pacte entre eux?
C'est amusant que vous posiez la question parce que oui, il y a un pacte. Ça, plus personne aujourd'hui ne peut le nier, surtout que Bill Clinton a lui-même reconnu que ce pacte existe, c'est-à-dire qu'avant même de se marier avec Hillary, tous les deux ont décidé qu'ils allaient utiliser toute leur énergie pour essayer de renouveler, et moderniser et remettre la politique américaine au centre. Ça, c'est une sorte de contrat de confiance qu'ils ont passé tous les deux, qui commencerait par lui, avec un objectif qui était évident à l'époque, c'était la présidence des États-Unis. Et c'est vrai que depuis que Bill a quitté la Maison-Blanche, il a décidé de se mettre au service de sa femme pour faire l'autre moitié du chemin. Mais quand vous lui posez la question aujourd'hui de savoir jusqu'où ça peut aller, avec quelle conviction, etc., il a un peu... C'est pas qu'il baisse les bras, évidemment qu'il va faire le job. Mais c'est vrai qu'il est âgé maintenant, il est extrêmement populaire, il est à la tête d'une fondation, vraiment à la tête de laquelle il a... soulever des montagnes pour essayer de mobiliser de l'argent pour les grandes causes internationales, la santé, l'éducation. Il en a profité également pour faire du business, parce que Bill Clinton, c'est aussi un homme de carnet d'adresses. Et donc, oui, il fera campagne. Je suis pas persuadé qu'il y mettra le même zèle qu'elle, lorsque elle était vraiment à ses côtés comme une stratège. Lui n'est pas un stratège, au fond. C'est pas un expert électoral, c'est pas quelqu'un qui va lui dire dans tel ou tel comté tu peux ramasser 3 voix de plus. Lui, c'est le charisme. C'est l'énergie.
Ça sera celui qui prendra les électeurs dans ses bras, c'est ça?
Voilà. C'est lui qui est capable de faire des hugs, d'aller embrasser tout le monde, et surtout de faire rayonner cette sorte de personnalité incroyable. Rappelez-vous le discours qu'il a fait, qui était un peu une sorte de devoir obligé pour la réélection de Barack Obama à la convention. Il a réussi à électriser une foule qui était, enfin, qui traînait un peu des pieds pour aller renouveler le mandat d'Obama. Ouais. Il a ce talent-là, et je pense qu'effectivement, il va l'utiliser.
Et je pense que c'est important, parce que c'est vrai que il a eu ce rôle dans la campagne de Barack Obama en septembre, lorsque c'était en train un petit peu de patiner, et il a dit une phrase qui a été très importante pour la campagne d'Obama, qu'il a repris ensuite, c'est « Bah écoutez, moi, j'aurais pas fait mieux. » Alors, le président le plus populaire, le président vivant le plus populaire, et sur les questions économiques, qui dit « moi, j'aurais pas fait mieux », il y a plein d'Américains qui se sont dit « finalement, en train de reprendre un petit peu la reprise, dans la voie, mais moyennement, ça se jouait sur les questions économiques et ça a été important ». Alors, la nuance, c'est que même si, c'est vrai que c'est le charisme, il y a quand même beaucoup de sénateurs et surtout de représentants qui lui doivent sa réélection. Il a joué quand même un rôle, il a mouillé la chemise pour réélire des démocrates, donc ça veut dire qu'il a un réseau. Et ce réseau-là, il peut le mettre au service d'Hillary Clinton, et donc ça jouera un rôle dans la campagne, si campagne il y a.
Je voudrais vous lire le message d'un voisin qui est posté de New York, Dante, un message intéressant qui nous dit, Dante nous dit, ça serait certes une chose extraordinaire que d'avoir une femme à la tête du pays le plus puissant du monde, mais en même temps, nous nous sommes battus pour nous débarrasser des fers tyranniques de la monarchie britannique il y a plus de 200 ans. Ça m'agace, nous dit Dante, de voir que de nouvelles dynasties sont en train de s'établir dans mon pays, avec une Clinton, évidemment, éventuellement présidentiable chez les démocrates, et un Jeb Bush, le petit frère, donc de George Bush, du côté républicain. Les deux font partie de l'establishment. On devient de moins en moins démocratique parce que les oligarques et les multinationales sont prêts à casquer des sommes faramineuses pour qu'on fasse ou abroge les lois qu'ils veulent, nous dit Dante. Et il poursuit son message. Ils sont trop proches de Wall Street et du big business. Tout cela me semble décidé d'avance alors qu'on est encore à un peu moins de 2 ans des élections. Nous méritons de vrais débats, de vraies primaires. Nous méritons bien mieux que ça pour améliorer notre pays. Voilà, fin du message de Dante. Postez de New York vos commentaires, messieurs, ce sera juste après Stand with Hillary. Looking back in time, learning hindsight's always right. We came together in no way to find a moment we all can celebrate. It's 2016, and this time I'm a thanking guys.
put your boots on and let's smash this.
C'est mou, c'est country, hein. C'est un clip de soutien à Hillary pour 2016. Est-ce que ça reflète finalement le message que je vous lisais juste avant, François Durper et François Clémenceau, le message de Dante à New York? Est-ce que ça reflète une partie de l'opinion américaine ou pas, selon vous?
La première partie sur l'effet dynastique.
Ah. Oui, l'effet dynastique.
L'effet dynastique, je ne pense pas. En fait, secrètement, les Américains aime les dynasties, donc on va pas se faire d'histoire, elles existent en fait, et là nous on ne parle effectivement que des Bush et des Clinton, mais il y a eu les Kennedy avant, et vous pouvez pas savoir dans les États, il y a des carrément des gouverneurs de père en fils, il y a des sénateurs et des représentants à l'échelon local, des vraies familles, des clans même on pourrait dire, donc ils connaissent ça. Et en plus, la question de la compétence n'est pas posée. Je veux dire, c'est pas comme si on élisait le fils d'eux qui est totalement nul et qui ne porte que son nom. On peut dire ce qu'on veut de George W. Bush. Il était peut-être moins calibré que son père ou que son frère, mais il a eu une présence. Il s'est fait réélire tout de même, et pas uniquement sur son nom.
Et puis Jeb Bush, carrière politique, voilà. On peut pas lui...
Mais en revanche... Wall Street, oui, c'est important. Pourquoi ? Parce que la classe moyenne a effectivement énormément souffert de la crise économique et financière aux États-Unis, et aujourd'hui, toute l'aile gauche du parti, et qui est quand même une masse importante, s'inquiète de voir effectivement le lien qu'entretient Hillary Clinton avec le milieu de la finance. Et ça pose un
même
vrai problème.
Même si, quand même, dans l'identité américaine, la culture américaine, faire de l'argent n'est pas grossier.
Non, mais là, on parle de ce qui va se passer du côté démocrate. Hein. Il faut que Hillary Clinton fasse le plein chez les démocrates. Et effectivement, quelle va être sa campagne ? C'est-à-dire que comment elle va se positionner dans cette dernière année entre le marteau et l'enclume ? C'est-à-dire qu'elle a un président qui est démocrate, qui est un peu empêché, qui n'a pas réussi à avancer sur des questions aussi importantes que le salaire minimum. Il y avait des promesses qui avaient été faites et qui n'ont pas été tenues aussi, parce qu'il y a un congrès qui bloque évidemment sur cette question-là. Et donc, quel discours elle va tenir?
Et par rapport à elle-même aussi, est-ce qu'elle est plausible dans une campagne de gauche pour les démocrates aux primaires, au regard de la fortune amassée par les Clinton? Parce qu'on parle bien d'Hillary et de son parcours. Hein,
elle était enfant avec un papa républicain, elle était ensuite libérale, c'est-à-dire très progressiste, donc une démocrate de gauche, elle s'est recentrée politiquement, et là, elle devrait refaire un virage à gauche pour aller chercher l'aile gauche du parti sur ces questions sociales, parce que reprise économique il y a, en revanche les inégalités se sont creusées depuis l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, et ça pour le coup, faire une campagne sur les classes moyennes et sur, pas l'égalité sociale à la française, mais
une
sur
forme de justice
meilleure
sociale,
répartition
en tout cas.
Des richesses amassées, ça serait
et
un
au regard
atout
de
la
fortune amassée par les Clinton, parce que vous en parlez pas mal dans votre livre, François Clémenceau.
Oui, mais ce sont à la fois tous les deux, Bill et Hillary, ils ont amassé des millions de dollars et en même temps ils le dépensent mais vous
beaucoup
pouvez pas
après la Maison Blanche, hein, c'est-à-dire les conférences, payer des ponts d'or, etc. Hein.
Mais bien sûr, mais cet argent n'est pas un argent, j'allais dire, qu'ils dépensent de façon bling-bling, ce sont pas des gens qui flambent. Et puis c'est surtout que non, ils réinvestissent l'intégralité de cet argent dans la politique.
Vous restez tous les deux avec nous, qui est vraiment Hillary Clinton? Vos questions sur cette femme difficile à percer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71, et puis bien sûr, je relaie vos questions sur les réseaux sociaux. 7 milliards de voisins, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant, après le flash sur RFI, bien évidemment.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, qui est Hillary Clinton? On en a parlé en première partie avec nos invités François Clémenceau. Vous publiez Hillary Clinton de A à Z et François Durper, vous êtes spécialiste de l'histoire des États-Unis à l'université Sergi Pontoise. Elle a un parcours politique hors norme dans un monde encore largement dominé par les hommes, ce monde politique américain. François Clémenceau, finalement, femme d'expérience, est-ce qu'on peut redire là en quelques mots son parcours politique dans l'ombre en même temps de Bill Clinton?
Son parcours politique se fait dans l'ombre de Bill Clinton, sauf que c'est elle la stratège. Donc oui, c'est une éminence grise, c'est l'éminence grise de son mari, c'est elle qui dessine un peu sa carrière politique. Elle le fait avant leur mariage, lorsqu'ils partent s'installer dans l'Arkansas. C'est quelque chose qu'elle n'avait absolument pas prévu. Elle se voyait à Washington, lui était au contraire enraciné dans sa terre du Sud. Elle fait toutes ses campagnes pour être élue d'abord procureur, puis gouverneur de l'Arkansas, et puis ensuite elle accompagne son mari dans la conquête de la Maison Blanche. Franchement, qui aurait pu dire que Bill Clinton avait ses chances en 92? Pas grand monde. Et une fois à la Maison Blanche, elle demande à obtenir un rôle de quasiment coprésidente, ce qui lui est refusé. Et ce que lui donne son mari, c'est de pouvoir mettre en selle la grande réforme de l'assurance santé, sauf que les méthodes qu'elle emploiera à l'époque sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'elle décide de faire ça dans l'opacité, dans le secret, en méprisant les parlementaires, et donc cette réforme échoue très rapidement. Ensuite, avant même que son mari ne quitte la Maison Blanche, elle se lance dans la campagne pour devenir sénatrice de l'État de New York. Elle est élue facilement, elle est réélue encore plus facilement, et c'est depuis le Sénat qu'elle lance sa campagne pour devenir présidente des États-Unis en 2008. Elle perd la primaire face à Barack Obama, et ensuite elle devient secrétaire d'État de Barack Obama pendant 4 ans.
Donc à la tête de la diplomatie américaine, de la restauration de l'image des États-Unis dans le reste du monde.
C'est ça. Et son bilan, s'il devait y en avoir un, c'est essentiellement ça, c'est d'avoir réussi sur les 3 premières années de son mandat à redorer l'image des États-Unis, à la fois en Europe, mais également au Proche et au Moyen-Orient, et surtout en Asie, parce que c'est vrai qu'à tous les deux, ils partagent cette idée-là, que l'avenir des États-Unis, c'est en Asie.
Ça, c'est ceux qui veulent voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire, oui, elle a fait le job, et puis d'autres disent, elle a avalé du mile, hein, c'est-à-dire qu'elle elle a passé 4 ans dans l'avion, en gros, non-stop, hein, ce qui lui a valu des difficultés de santé, mais finalement, pour quel bilan?
Pour un bilan qui fait d'elle une sorte de VRP de l'Amérique, et en même temps, elle a pris bien soin sur chacun des dossiers de ne jamais porter atteinte à la campagne qu'elle mènerait pour la Maison Blanche plus tard. Autrement dit, si vous prenez chacun des dossiers, l'Iran, le Proche-Orient, l'Irak, l'Afghanistan, le rapport à la Russie, le rapport avec avec l'Europe, elle a pris soin à chaque fois, non pas d'être en retrait, elle a appliqué les consignes, elle a été une très très, enfin très très loyale en ce sens, mais sans se brûler les ailes, sans prendre de risques. On le voit par exemple, je le raconte dans le livre,
sur le conflit israélo-palestinien. Rapport à l'implication de Bill Clinton quand il était président.
Elle a été demander le gel de la colonisation à Netanyahou quand elle a vu que ça marchait pas. Ouais. Elle a fait 3 pas en arrière, et sur la Libye, elle a absolument pas recommandé à Obama d'intervenir derrière les Anglais et les Français. Elle s'est tenue à distance. Elle a attendu qu'une décision se prenne, et ensuite seulement elle a suivi.
Mais c'est imprudent. Il faut quand même voir que l'une des explications de sa défaite de 2008, c'est son péché originel, c'était le vote de la guerre en Irak. Donc elle sait que on peut pas gagner sur la question de la politique étrangère, mais on peut perdre sur la question de la politique étrangère, d'où sa prudence. Ce parcours, brillamment, en quelques minutes que François vient de nous faire, il faut voir tous les coups qu'elle a pris au cours de sa carrière, qu'il a complètement forgé, s'est fait une carapace, de l'affaire Whitewater, il y a des années,
des investissements dans l'immobilier douteux de la part de la famille,
et l'assassinat de l'ambassadeur John Christopher Stevens, qui lui a été reproché, les républicains lui ont tombé dessus, jusqu'à aujourd'hui elle doit donner 55 000 mails, parce qu'il y a une affaire, si vous voulez, pendant 4 ans, c'est le New York Times qui a sorti ça, elle aurait utilisé son mail personnel pour des mails en fait qui sont liés à sa fonction de secrétaire d'État. Oui. Et ça c'est contraire à la loi fédérale. Donc elle a toujours dû surmonter. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'elle s'appelle...
pas contraire à la loi fédérale, puisque la loi en l'occurrence a été adoptée récemment et elle n'est pas rétroactive. Mais c'est clair que n'importe qui aurait compris que lorsqu'on est secrétaire d'État, on utilise une adresse professionnelle. Elle a utilisé une adresse personnelle. Donc légalement, je ne suis pas sûr que ça joue contre elle, mais c'est vrai que ça contribue à faire d'elle un personnage qui est extrêmement prudent, qui part à tous les trucs, et c'est vrai qu'on
est capable de résister à tout. Vous savez, son Hillary, d'où ça vient? C'est Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary, c'est un alpiniste néo-zélandais. C'est ses parents qui l'ont appelé comme ça, qui adoraient cette. Donc c'est quand même, on est porté aussi par son nom originellement. Ouais. Celle qui va là,
une battante. Ceci dit, la question là aujourd'hui, on essaye de comprendre qui est vraiment Hillary Clinton, et puis surtout quelle présidente ou quelle campagne elle pourrait faire pour la présidence des États-Unis. Est-ce qu'elle est encore vraiment connectée avec la société américaine, avec ce qu'il y a dans la tête et les préoccupations des Américains aujourd'hui, François Durpaire?
Elle essaye d'avoir... je vous prends un exemple concret sur la question afro-américaine. Sur la question afro-américaine, elle a été prudente dans un premier temps suite à l'affaire Ferguson, mais ensuite c'est une des seules voix politiques qu'on ait entendues. Tout le monde, tous les hommes politiques se sont dit de droite, de gauche, républicains, démocrates, il y a plus de coups à prendre que de points à récolter. Hillary Clinton a dit, il faut réformer nos institutions, la justice, mieux former la police. Il y a un véritable problème entre la communauté noire et ces deux institutions que sont la police et la justice. Donc, sur ce coup-là, oui, plus de connexion. Mais est-ce que l'élection va pas se jouer plus tôt? Parce que les Noirs votent à 90% démocrates. La question, c'est plus la mobilisation des Noirs américains que leur vote qui est acquis aux démocrates. Mais est-ce que ça va pas se jouer sur la communauté hispanique, cette élection? Et si elle a en face un candidat hispanique capable de hispanique ou allié, hein, comme un Jeb Bush qui est hispanique d'alliance, par alliance. Est-ce que ça va pas se jouer sur des États dont on a vu que Barack Obama a remporté la dernière élection, et même les deux dernières, en allant chercher des swing states sur des États où les hispaniques sont très importants, des États qui sont rouges, qui sont républicains et qui ont basculé, je pense à la Floride par exemple, qui a basculé du côté démocrate. Donc les hispaniques sont au centre de tout.
En quoi elles pourraient séduire les électeurs latinos justement?
C'est important qu'elle ait cette campagne-là.
C'est vrai que c'est typiquement un électorat qu'elle a négligé. Elle l'a négligé pendant la campagne des primaires, ça lui a apporté énormément de tort, et notamment dans ces États de l'Ouest américain, par exemple le Nevada, le Colorado, le Nouveau-Mexique, elle n'a pas énormément fait campagne là-bas, et elle s'en est mordu les doigts. Mais je crois qu'elle a compris de ses erreurs aujourd'hui, je crois qu'elle ne fera pas les mêmes sottises, elle ira aujourd'hui se battre, elle a récupérer la plupart des experts électoraux de Barack Obama qui vont se mettre maintenant à son service et donc qui vont utiliser un certain nombre de ressorts de la campagne 2008 et de la campagne 2012. Et donc je pense que sur le plan électoral, elle ne commettra pas les mêmes erreurs.
Et là, on est dans la cuisine électorale, mais si on reprend la psychologie américaine, finalement, quel est aujourd'hui le visage de la société américaine depuis la crise de 2008, hein? Alors on parlait d'abord, il y a des changements démographiques d'importance, hein, il faut peut-être le rappeler. La communauté latinos aujourd'hui aux États-Unis, ça baisse combien?
C'est 15% de la population, et c'est surtout un poids électoral, parce que il faut voir la société, il faut voir comment fonctionne l'élection présidentielle. C'est-à-dire que ce sont des États à conquérir. C'est comme si c'était une élection à l'échelle de l'Union européenne, il faut conquérir des États. Donc il y a des États où les hispaniques pèsent beaucoup plus que ces 15%. Et donc Hillary Clinton, elle doit avoir cette capacité à la fois de parler à parler aux classes moyennes et à parler à cette minorité silencieuse que sont les hispaniques. Regardez dans les affaires aujourd'hui dont on parle, les hispaniques sont, on n'entend pas leur voix. On ne sait pas ce qu'ils pensent exactement.
Pourquoi,
de tout ça.
Mais
regardez dans les affaires d'ailleurs dont on parle. Certaines affaires, Trayvon Martin par exemple, c'est un hispanique qui est en cause. Enfin, un métis hispanique. Donc, que pensent les hispaniques? Vous savez que les hispaniques votent à 60% démocrates, mais c'est pas un électorat qui est
figé,
affilié à un parti
une
ou un
communauté
autre.
Assez discrète.
Et en plus, il est assez progressiste sur l'économique et le social. Il est en même temps assez conservateur sur les idées sociétales parce que précisément, c'est un électorat encore très majoritairement catholique. Et donc, sur le mariage gay, sur l'avortement, sur la peine de mort, sur l'euthanasie, c'est un électorat qui est assez conservateur. Et ça tombe bien parce qu'Hillary elle-même, et c'est là où je reviens à votre question sur est-ce qu'elle est connectée avec la réalité sociale américaine. Je suis pas persuadé, si vous voulez, que elle adorerait inaugurer le salon de l'agriculture, mais elle sait à quel point cette société est en train de changer, et elle sait exactement voir comment chacune des minorités, mais aussi un certain nombre d'échantillons de la société américaine changent. Et c'est vrai que cette société, elle change de j'allais dire, moi j'ai écrit un livre.
Est-ce que ça, elle a compris ce changement-là avec ces inégalités qui se sont accrues, même si effectivement aujourd'hui l'Amérique se relève, hein, de la crise de 2008. Mais elle a longtemps travaillé sur les dossiers, on va dire, des dossiers très femmes, cause des femmes, éducation, santé, exclusion. Et puis ensuite, elle a été au département d'État américain, elle était en politique étrangère. Est-ce qu'elle est encore connectée à ce problème-là de l'exclusion?
C'est toute la difficulté d'une campagne présidentielle aux États-Unis. C'est qu'il faut que vous montriez à l'électorat que vous êtes à la fois capable d'être commander-in-chief, c'est-à-dire le chef de la première puissance militaire du monde, et en même temps incarner l'Amérique. Parce que pour le reste, c'est le Congrès qui s'occupe de tout et c'est le Congrès qui décide globalement. Donc c'est à vous d'être à la fois le visionnaire et incarner l'Amérique qui change. Obama a incarné l'Amérique qui change parce que il est nouveau, il est frais, il est jeune et il a de l'imagination. Oui. Hillary Clinton, de ce point de vue-là, est une femme des années 50 au sens où elle est de cette génération-là, très conservatrice, et en même temps, elle a traversé la grande période de mutation de la société américaine. Elle était, comme l'a rappelé François tout à l'heure, elle était de gauche dans les années 70, elle a rebasculé au centre dans les années 80-90, et aujourd'hui, c'est une femme qui,
elle a commencé en travaillant sur l'aide juridictionnelle aux plus démunis. Donc, effectivement.
Et quand vous regardez le livre qu'elle sort quand elle est First Lady en 96, elle écrit un livre qui s'appelle Il faut tout un village pour élever un enfant. Si vous regardez dans le détail ce qu'elle écrit, ce sont des choses qui auraient pu être écrites par une femme de droite ou d'extrême droite. Quand on le parle, par exemple, de la contraception pour les filles ou de faut-il regarder la télévision le soir chez soi alors qu'on n'a pas fait ses devoirs. Donc, elle est capable d'illustrer précisément à la fois combien la société américaine est encore, par certains aspects, conservatrice et à la fois la volonté de changement et de maturation sur les grandes questions des inégalités sociales.
François Durpaire, sur ces questions sociétales.
C'est vrai qu'il faut qu'elle doit trouver cette alchimie et faire une campagne peut-être aussi sur son expérience. Elle va pas gagner sur des qualité qu'elle n'a pas. Elle va pas faire la campagne d'Obama en 2008, tout d'un coup en ayant une empathie, en allant dans les concerts de rock, c'est pas possible. Mais les Américains ne revoteront pas là-dessus, parce qu'ils sont très déçus. Ils sont à la fois, ils ont réélu Barack Obama, mais ils sont aussi déçus de cela. Ils se disent, bon, il y a plein de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc être capable de faire campagne...
Donc on peut élire sur l'expérience et pas tant que ça sur le
aussi,
programme.
On peut aussi élire sur le programme et l'expérience, et sur la capacité à faire passer ces lois au Congrès. Les Américains, si vous voulez, il y a une défiance aujourd'hui, enfin comme dans beaucoup dans l'histoire, mais là on atteint vraiment par exemple le Congrès, vous savez, qui sont beaucoup plus, le Congrès, 13% de confiance pour le Congrès. Donc ça veut dire que il faut que Hillary Clinton soit capable de redonner confiance en la politique. Et ça, c'est quelque chose qui est... Et puis, effectivement, mettre en route la machine Hillary. Il faut qu'effectivement qu'elle utilise toutes ses formes. C'est pas Hillary, c'est Hillary Clinton. Ils vont repartir en... Mais il y a une anecdote. C'est l'anecdote la plus fausse et la plus juste de l'histoire récente. Dans les années 90, on racontait, vous savez, que le couple Clinton s'arrêtait à une station de service. Vous connaissez, et le pompier se dit, ah, tu te rappelles Hillary, on est sortis ensemble, et Bill lui dit, ah ben si t'étais sorti avec le pompiste, t'imagines la vie que t'aurais eu. Et Hillary lui répond, bah oui, toi tu serais pas président, et ça serait le pompiste qui serait président. Alors évidemment, ça n'a jamais existé, cette anecdote, c'est apocryphe, mais on l'a raconté beaucoup dans les années 90, parce qu'on ça montrait évidemment dans le couple quelle était celle qui était la plus politique des deux. Ouais. Mais enfin, les deux, c'est un couple politique, pas au sens où se sont rencontrés, et sera jamais l'Amérique profonde. Ils se sont rencontrés dans une bibliothèque, un coup de foudre dans une bibliothèque universitaire. Quand même peu d'Américains.
On va y revenir dans quelques instants à ce couple ou à ce partenariat d'ailleurs. Il faut peut-être peser ces mots. Ah, ça sera juste après Sweet Wood de Mélissa Lavo. vous de Mélissa Lavaux. On parlait qui est vraiment Hillary Clinton et surtout du couple Bill et Hillary avec vos anecdotes. François Durper, François Clémenceau, vous publiez Hillary Clinton de A à Z. Alors couple ou partenariat finalement aujourd'hui?
Ça dépend ce que vous appelez un couple. Mais si vous savez ce que c'est qu'un partenariat, oui, là pour le coup vous misez juste parce que eux-mêmes se définissent comme ça. Quand vous demandez à Hillary Clinton si elle a vécu une grande histoire d'amour avec son mari, elle vous répond « Bill et moi, nous entretenons une conversation depuis plus de 40 ans ». Et ça veut tout
ils
dire.
Ils fêteront leurs 40 ans de mariage là, l'automne prochain.
Cette année. Et donc, vous vous dites qu'effectivement, ils sont davantage unis par les idées, par le projet politique qu'ils ont en commun, que par une vie conjugale riche et abondante. De ce point de vue-là, beaucoup même se sont posé la question de savoir quelle était la vraie sexualité d'Hillary Clinton, par exemple. J'ai pas voulu aborder ça dans le livre, ça me paraît un peu cheap. Mais en même temps, vous voyez bien que cette femme... C'est pas quand vous parlez d'une féminité ou de son féminisme ou de son rapport aux femmes, elle en parle d'un point de vue politique, jamais d'un point de vue psychologique ou physique.
Sur la sexualité de Bill Clinton, on a beaucoup moins de doutes, en effet. Grâce à la presse et grâce entre autres à quelques affaires.
Voilà, à un nombre incalculable de reprises. Et je pense que elle, et on va parler.
Pour la conservatrice qu'elle est sur des affaires, enfin, sur des valeurs sociétales, comment elle l'a vécu?
Elle, et c'est très, très intéressant, elle pense que lui, à chacune de ces occasions-là, a trahi non pas leur contrat de vie conjugale, mais a trahi leur contrat politique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se mettaient en travers de leur parcours par une affaire sexuelle ou par une liaison ou par des aveux, eh bien, ils mettaient en péril leur construction politique. Elle ne l'a pas vécu. Alors, après, elle a peut-être vécu en tant que femme une humiliation profonde. Oui, elle l'a montré, elle l'a expliqué. Mais pour elle, c'était à chaque fois, Bill, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de compromettre ton avenir politique et notre avenir politique et nos idées. Ouais. Parce que pour le reste, elle est très religieuse et elle pardonne. Et c'est ça qui est absolument incroyable et indestructible.
Alors ça, la religion, ça revient beaucoup dans votre livre. Hein, effectivement, la place de la religion dans la vie quotidienne d'Hillary Clinton. Vous dites qu'elle a une Bible dans son sac, réellement.
Elle se réfère à la Bible très souvent, elle lit la Bible presque quotidiennement, et elle se réfère à l'enseignement religieux qu'elle a reçu et qui est extrêmement important pour elle. Elle a entretenu une correspondance avec son aumônier et son guide spirituel jusqu'à sa mort, et elle continue de voir dans le méthodisme, c'est-à-dire cette religion qui est la plus proche finalement de ce que nous avons en Europe, le catholicisme. C'est un catholicisme revu et corrigé naturellement, mais dont elle est, l'incarnation de ce qu'il y a de plus progressiste dans cette religion. C'est-à-dire que pour elle, la foi n'est rien si on ne la met pas en action. Ouais. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans la politique, oui, on doit être du côté du progrès, de l'aide aux plus petits, de l'aide aux plus pauvres. On doit essayer de faire progresser la société et non pas s'en servir.
François Durper, vous trouvez aussi que la religion a forgé sa personnalité et ses convictions politiques, François Durper?
On peut le formuler même de manière plus forte en disant que sans cet attachement religieux, elle serait peut-être restée républicaine. Elle aurait peut-être adopté la religion la religion politique de son père. Mais elle découvre en 1963, elle va dans ce discours de Martin Luther King, elle va pas découvrir le Martin Luther King politique, elle va écouter le pasteur. Et écoutant le pasteur, elle se convertit au droit civique. Et donc, les droits civiques, en 63, c'est aussi épouser, être démocrate, être progressiste. Donc, ça veut dire que cet attachement à ce message christique...
Mais c'est difficile à comprendre pour nous, en France. Message christique se confond avec l'action politique.
Voilà, la laïcité est pas du tout de la même... On n'a pas du tout la même laïcité aux États-Unis.
Mais comment ça conduit à l'action politique?
Mais parce que, pour elle, lorsqu'on reçoit un enseignement comme ça, lorsqu'on reçoit ce patrimoine-là de la part de ses parents, lorsque tous les soirs, on a fait la prière à genoux au pied du lit, et que on se dit que l'autre a une importance considérable, et que par la suite, on passe à la fac et on s'aperçoit que quelle est la manière de servir l'autre? Il n'y en a pas 36, soit vous faites du syndicalisme, soit vous faites de l'aide sociale comme a fait Obama, soit vous faites de la politique. Et elle, Elle choisit une profession d'avocate où elle va s'adresser essentiellement aux enfants et aux familles. Mmh. C'est le droit de la famille. Mmh. Et en même temps, c'est la politique, en se disant, il n'y a pas 36 façons de pouvoir élever les droits et relever le défi des inégalités qu'en passant par la politique. Donc la politique est un moyen pour elle de donner du bien, de faire du bien à la société. Elle a essayé de le faire en tant qu'avocate, en tant que femme de gouverneur, en tant qu'élue au Congrès et à la Maison Blanche.
En même temps, François Clémenceau, vous expliquez beaucoup dans votre livre qu'elle a ce côté caméléon. Il y a à la fois, il y a une constance et un côté caméléon. Est-ce que c'est ce qui fait sa force ou c'est ce qui va aussi faire sa faiblesse? C'est-à-dire justice sociale, mais bon, j'ai gagné beaucoup d'argent et elle est pas contre. Hein.
Non, l'argent pour elle n'est qu'un moyen. Et effectivement, si vous voulez faire de la politique aux États-Unis et surtout si vous voulez gagner des élections, il vous faut énormément d'argent. Donc elle se sert de ses relations avec les grandes entreprises, avec les grands industriels. Elle avait le culot d'être au conseil d'administration de Walmart lorsqu'elle était jeune avocate dans le Sud. Qui aurait pu croire qu'elle serait capable d'aller dans la compagnie la plus conservatrice des États-Unis? Eh bien, elle y a été quand même pour prendre de l'argent et pour se servir de cet argent pour pouvoir continuer à faire de la politique. Donc, il n'y a pas de contradiction chez elle. Le problème, c'est que ses électeurs, et notamment les électeurs de gauche, quand ils la voient en train de faire des conférences à Wall Street, ils se disent « c'est pas possible qu'on puisse être démocrate et être à ce point-là, pardonnez-moi l'expression, cul et chemise avec Wall Street ». Et donc, c'est ce qui risque de la pénaliser dans son propre électorat, mais pas dans le reste de l'électorat américain qui, effectivement, considère que les entreprises américaines sont là pour faire prospérer l'Amérique, et c'est tant mieux.
On vous sent assez fasciné quand même par Hillary Clinton, non, François Clémenceau?
J'ai écrit deux livres sur Barack Obama et un livre sur
livre,
Hillary Clinton. Elle refuse, oui. Hillary Clinton, elle refuse de rencontrer le moindre de ses biographes. Elle ne donne que des interviews à des journaux où les questions sont calibrées au millimètre, où les réponses sont quasiment écrites d'avance. Elle déteste la presse et les journalistes. Et lorsque je l'ai rencontrée, lorsqu'elle est venue à Paris, au moment où j'étais en train d'écrire le livre, je lui ai dit, voilà, je suis en train d'écrire un livre sur vous, j'aimerais bien qu'on puisse en parler. Elle a fait deux pas de recul parce qu'elle avait l'impression qu'on allait la dévorer. Elle est comme ça. La presse lui a fait tellement de mal au moment de son passage à la Maison Blanche qu'elle considère que la presse est un ennemi. Et donc, moi, je n'ai aucune espèce de fascination pour elle. Je trouve que c'est une personnalité incroyable, que son destin est phénoménal et qu'elle est peut-être beaucoup moins sympathique que Barack Obama, par exemple, d'un point de vue de personnalité. Mais son parcours est d'une cohérence absolue. Oui. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse chez
même
elle.
Même si, en même temps, tout est verrouillé. Et tout ce qu'elle fait est en fonction de ce qu'on pourrait dire d'elle, etc.
Oui,
quand même.
Naturellement.
François Durpaire nous dit au début de l'émission, vous ne croyez encore qu'à moitié à son annonce de candidature pour les primaires. Mais qui pourrait battre Hillary Clinton en admettant qu'elle y aille?
Pour la primaire, personne. Pour l'élection générale,
c'est-à-dire
vous avez
les
cité Jeb Bush, les Républicains ont toutes les chances de gagner l'élection prochaine. Et les Républicains sont... D'ailleurs, si elle y va, il faut clairement que la pression soit, comme le terme qu'on utilise en sport, du côté des Républicains. Voilà, il y a eu 8 ans en démocrate, vous avez le Sénat, c'est vous qui depuis 2 ans gouvernez, il faut très clairement dire, c'est vous qui gouvernez, hein, vous avez depuis les mi-termes tous les rouages. Et maintenant, allez-y, prenez la présidence. Oui. Et Hillary Clinton, elle doit être dans cette position d'outsider. C'est très difficile parce que elle va pas être dans cette position-là. Donc moi, ce que je pense, je dis pas qu'elle n'ira pas. Je pense que dans un coin de sa tête, elle se dit si je sens que je n'ai pas mes chances, je n'irai pas.
Faites attention à un nom et il faut le retenir. Écrivez-le. Scott Walker, gouverneur du Wisconsin, est un homme incroyablement intelligent, assez jeune, qui ressemble à ce qu'était Bill Clinton à l'époque lorsqu'il était jeune gouverneur de l'Arkansas, mais à droite, avec un point de vue très fort. Si jamais cet homme-là décidait de faire la paire avec, par exemple, un jeune politicien latino brillant, je pense qu'Hillary Clinton aurait du souci à faire.
On suit tout ça, hein. Ne vous inquiétez pas pour les auditeurs. Il y a le bureau de Washington qui veille avec Anne-Marie Capamacho et toute la rédaction de RFI, bien évidemment. Juste un mot avant qu'on se quitte quand même. On a beaucoup parlé, évidemment, de la politique politicienne, des sommets, des hautes sphères. Et qu'est-ce qu'il y a, en une phrase, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la tête des Américains? En France, on dirait la lutte contre le chômage, retrouver l'espoir. Et chez les Américains, en une phrase, François Clémenceau.
Retrouver l'espoir également, après une décennie de guerre à l'étranger où l'Amérique n'a pas l'impression d'avoir gagné grand-chose et retrouver l'espoir sur le plan économique parce que la classe moyenne qui fait l'Amérique a considérablement perdu au cours de ces années, pas par la faute d'Obama, mais parce que cette crise a considérablement dévasté l'Amérique.
On se quitte avec le message de Kalilou à Cotonou, au Bénin, qui nous dit « Hillary, présidente, moi j'y crois, la série 24 heures chrono avait prévu un noir président des États-Unis, c'est ce qui s'est passé. La même série a prévu ensuite une femme présidente et c'est ce qui va se passer. » Alors, je ne sais pas si on l'était série télévisée qui dicte la politique américaine. Merci en tout cas à tous les deux. François Clémenceau, donc vous publiez Hillary Clinton de A à Z aux éditions du Rocher. François Durper, spécialiste de l'histoire des États-Unis, Université Cergy-Pontoise. Vous avez publié notamment la nouvelle version de l'histoire des États-Unis dans la collection Que sais-je. À demain, les voisins, les voisines.